tous unis et les Marocains sont tous unis.
En plus de viser la qualification et en fonction du match du Brésil, les Lions de l'Atlas peuvent espérer sortir premier de leur groupe. Edouard Maï, Atlanta.
C'est tout.
Pour des routes plus sûres, le préfet du Maine-et-Loire a un message pour vous.
En Maine-et-Loire, chaque semaine, une personne perd la vie dans un accident de la route. Et quasiment chaque fois, ces drames auraient pu être évités, simplement en respectant les règles de la sécurité routière. Respect des vitesses, non-consommation d'alcool et de stupéfiants, absence d'utilisation des téléphones. Respecter les règles, c'est simple, mais ça sauve des vies.
En période de canicule, protégez-vous en adoptant les bons réflexes. Buvez de l'eau régulièrement, restez au frais. Et si vous voyez une personne victime de malaise, de forte fièvre ou qui tient des propos incohérents, appelez immédiatement le 15.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Waouh, ça y est, c'est ma dernière, ça me fait bizarre de vous l'annoncer, enfin vous le saviez, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit, et bah, ce soir c'est la dernière, alors dans des conditions en plus pas forcément prévues, vous le savez, on est en pleine période de canicule, il fait chaud, vigilance rouge maximale, on est en train de vivre des moments historiques aussi qui coïncident avec mon histoire personnelle, puisque du coup demain jeudi il n'y aura pas d'émission. Hier, il n'y a pas pu avoir d'émission non plus, donc on fait comme on peut, mais voilà, on prend quand même l'antenne ce soir parce que c'est possible pour vous partager donc la dernière de Topette sur le 101.5 FM. Est-ce que ce sera ma dernière à moi personnellement, professionnellement, au micro de Radio G ou sur notre radio? Je ne sais pas. A priori, oui. Donc, merci. D'ailleurs, avant de faire quoi que ce soit, j'ai envie de on va juste écouter une petite musique qui va nous rappeler des bons souvenirs.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Et oui, le générique de Topette sur les premières saisons de son existence à cette quotidienne. Quotidienne qui, pour le petit point historique, quand même, ne vient pas de nulle part. Ce créneau était déjà occupé depuis de longues dates, depuis un très long moment, par Cécile avec Kezako, puis ensuite par Annie avec L'Oreille Curieuse. Puis depuis septembre 2021 précisément, le 13 de mémoire, par Topette, animé par moi-même. Et puis toutes les personnes qui m'ont accompagné, que je dois remercier. Alors je ne peux pas commencer à les citer, elles seraient vraiment trop nombreuses. Il y a eu les services civiques, les stagiaires, les invités, les partenaires, les chroniqueurs ponctuels. Toutes ces personnes-là qui ont fait vivre cette émission, ce sont vous, si vous m'écoutez à ce moment-là, qui ont fait vraiment le cœur de ce programme que j'étais très 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 heureux d'animer. Programme qui, il en reste une quand même à faire, donc on va écouter Marie dans quelques instants qui va nous faire l'interview de la directrice de Graines de Citoyens. Et puis pour finir en beauté, alors programme forcément allégé vu les situations climatiques et météorologiques actuelles, mais c'est à propos, ça fait plaisir, le dernier chroniqueur qui sort là sur cette antenne pour Topette, c'est Mathéo avec 2,5. J'ai encore une fois peur d'avoir mal prononcé le nom de cette chronique que décidément je n'aurais jamais réussi à retenir. Mathéo, ça fait plaisir qu'on aura en fin d'émission. Topette, c'est parti pour la dernière.
L'invité de Topette sur Radio G.
Donc ce soir, nous sommes en compagnie de Marion Etrault, directrice et animatrice et formatrice, membre de l'association Graines de Citoyens. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Donc tu es membre de l'association Graines de Citoyens qui met en avant l'éducation. Vous souhaitez transmettre certaines valeurs et des principes. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de l'association générale? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement?
Alors l'association, c'est une association issue de l'éducation populaire et qui intervient auprès de différents publics, donc de l'enfance à la jeunesse, en passant par l'adulte, les professionnels, Et aussi les temps en famille, ou ça peut être dans différents lieux, les écoles, les temps périscolaires, collèges, centres sociaux, vraiment toutes les personnes qui souhaitent bénéficier de nos interventions. Et notre objectif, c'est de promouvoir des valeurs éducatives, telles que la non-violence, le respect, le droit à la différence, le droit de l'enfant et le droit de l'homme. Tout ça dans le but d'établir une stratégie de prévention de la violence.
Et justement, comment vous faites pour mettre tout ça en place, justement cette prévention contre la violence? Est-ce que vous faites des activités spécifiques? Est-ce que vous allez à la rencontre des autres?
On intervient directement auprès du public. Des classes, des groupes de temps d'activités périscolaires, pour proposer des animations, donc plutôt sous forme ludique, et pour aborder différentes choses autour de la gestion de conflits notamment, pour apprendre à gérer nos conflits en évitant la violence.
Oui, j'ai vu que vous faisiez aussi des temps de médiation, mais justement vous adaptez vos activités, etc., vos animations, je pense, selon les publics, parce que vous nous avez dit qu'on a du coup des enfants, des plus jeunes, mais aussi des adultes. Comment vous mettez ça en place aussi, justement?
Eh bien, l'idée, c'est d'intervenir de manière précoce avec les plus jeunes, leur apprendre dès le plus jeune âge à gérer leurs conflits. Et ça passe par apprendre à se connaître les uns les autres, apprendre à reconnaître et reconnaître chez l'autre les émotions, apprendre à communiquer aussi, et puis apprendre à savoir exactement ce que c'est qu'un conflit, ce que c'est qu'une violence, pour pouvoir l'éviter.
Et vous, du coup, donc, si j'ai bien compris, vous êtes directrice, animatrice, etc., et formatrice. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à intégrer ou même créer cette association, justement?
Alors, l'association, elle a 20 ans. Elle est née en 2005 et elle est issue d'un groupe d'animateurs de la ville d'Angers qui avait accueilli une exposition qui s'appelait Silence la violence. Et à l'issue de cette exposition, le groupe d'animateurs a voulu aller un petit peu plus loin et créer l'association pour proposer des animations plus spécifiques et vraiment que la médiation et la gestion de conflits soient au cœur de leur activité.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre ça?
Et moi, ce qui m'a poussé à rejoindre l'association, alors j'ai d'abord rejoint l'association de manière bénévole. J'étais bénévole quelques années à Graines du Citoyen avant de l'intégrer en tant que salariée. Donc d'abord animatrice, puis formatrice et aujourd'hui directrice.
Ok, mais justement, enfin j'insiste avec la raison, mais pourquoi justement, qu'est-ce qui t'a poussé à l'intégrer cette... Est-ce qu'il y a une raison particulière derrière? Est-ce que c'est une envie d'aider?
Ce qui m'a poussé à rejoindre l'association, c'est que j'ai été interpellée par les salariés de l'association à l'époque qui avaient besoin de nouveaux bénévoles et mon enfant avait pu bénéficier d'une intervention. Et notamment de la médiation par les pairs. Et j'avais trouvé ça absolument magique et très efficace. Et j'ai voulu aider l'association à ce moment-là.
Oui, donc c'est vraiment avec l'expérience aussi, on va dire, avec les autres que vous avez eues, que vous vous êtes dit, bah, tiens, je vais rejoindre l'association.
Oui.
J'ai pu voir aussi qu'il y allait avoir des portes ouvertes le 30 juin. Pourquoi des portes ouvertes, justement? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça?
Eh bien, justement, les portes ouvertes ont pour but de faire connaître l'association. Parce qu'on arrive à un moment de l'association où on a besoin de bénévoles, alors comme dans beaucoup d'autres associations en ce moment. Mais à Graines du Citoyen, là, ça devient une priorité. Où on a besoin de bénévoles pour garder le statut associatif de l'association. Actuellement, on est une équipe avec 2 salariés et 8 bénévoles qui interviennent à leur manière. L'idée, c'est de proposer différentes manières de participer au projet de l'association.
Oui, vous êtes une petite équipe, alors que vous avez, j'ai l'impression, de grandes ambitions. Est-ce que vous avez un public cible, justement, pour ces portes ouvertes? Est-ce que, vous, par exemple, vous visez plus des adultes ou même des étudiants, ce genre de choses? Est-ce que vous avez un public cible?
Le public est très large. Par exemple, en ce moment, on a 2 étudiantes qui sont bénévoles à l'association. On a aussi des personnes retraitées et aussi des personnes actives. Donc c'est vraiment très large, c'est tous ceux qui veulent participer au projet de l'association, participer d'une manière ou d'une autre à promouvoir la paix aussi.
Et à quoi on doit s'attendre justement pendant ces portes ouvertes? Est-ce qu'il y a des animations qui sont proposées, des activités pour expliquer ce qu'est l'association? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, on a prévu un petit parcours qui sera guidé par un petit livret pliant. Alors on peut le voir que dans le studio, mais pas à la radio. Donc ça se veut assez ludique, l'idée c'est d'avoir un parcours pour découvrir ce qu'est l'association, ses objectifs, ce qu'elle propose, et pour, si les gens le souhaitent, nous rejoindre.
Oui, c'est ça, c'est le but. J'ai l'impression que justement, vous souhaitez un peu promouvoir l'association. Est-ce que vous avez des ambitions aussi d'aller en dehors d'Angers? Est-ce qu'il y a des associations, on va dire, un peu similaires en dehors d'Angers, un peu partout ou pas?
Alors, parfois, on nous appelle de loin. On nous appelle de Marseille, du Nord, pour des interventions de grains des citoyens. Donc, on est basé à Angers, mais par contre, on intervient sur toute la région. Donc, on est une toute petite équipe, mais on travaille beaucoup sur différents thèmes. C'est très vaste et varié et du coup très intéressant. On y trouve forcément quelque chose qui va nous intéresser.
Oui, donc c'est pour ça que justement, vous faites cette porte ouverte pour pouvoir recruter, entre guillemets, de nouveaux bénévoles. Parce que si vous êtes sur la région, etc., c'est vrai que ça va être compliqué, non?
Alors, le travail, il est quand même fait par l'équipe de professionnels. Les bénévoles, ils vont accompagner et surtout pour porter le projet associatif. Et là, actuellement, les bénévoles, selon une étude qui vient d'être faite ou un sondage, ils estiment donner 2 à 5 heures de leur temps par mois. Ça dépend des périodes aussi. Là, il y a la préparation des portes ouvertes, donc ça mobilise un peu plus. Mais l'idée, c'est de faire connaître l'association pour savoir comment on peut contribuer à notre projet.
Et est-ce que vous pensez qu'en ce moment, on a besoin de l'association plus que jamais en ce moment, notamment justement avec l'augmentation de la violence, etc., qui est un peu partout, pas que justement dans la région, mais aussi un peu partout. Est-ce que vous pensez que justement, c'est important que l'association soit présente maintenant?
Alors, l'augmentation de la violence, on n'est pas sûr de ces chiffres. En tout cas, on en parle beaucoup plus, et ce qui est à la fois une bonne chose. À en parler aussi, parfois on s'y habitue, malheureusement. Et l'association, elle a encore tout au sens aujourd'hui. Elle a 20 ans, mais ce qu'on propose encore aujourd'hui, même si on adapte nos interventions effectivement au fur et à mesure des années pour qu'elles restent d'actualité, tous nos partenaires sont toujours satisfaits de nos interventions. Et effectivement, je pense qu'elle a toujours du lieu d'être. Ça parle encore aux enfants, ça parle aux adultes, ça parle à beaucoup.
Et qu'est-ce qu'on peut espérer justement de ces portes ouvertes? Est-ce que vous avez des attentes particulières ou pas? Vous avez parlé du coup du besoin de bénévoles, mais est-ce que vous souhaitez aussi faire parler un peu plus de l'association?
L'association, elle a son petit réseau qui lui permet d'intervenir. Et effectivement, notre objectif, oui, c'est vraiment de la faire connaître. La faire davantage connaître.
Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu les infos pratiques à retenir? C'est où qu'on doit aller? Enfin, où est-ce qu'on doit aller? C'est quand? Quelle heure? J'ai dit le 30 juin, mais peut-être qu'il y a une autre date, je sais pas.
Eh bien, c'est le 30 juin à 18h et ça se situe dans les locaux de l'association, donc au 37 rue Salpinte. C'est dans le quartier de la Roseraie. Mmh. C'est accessible en bus, en tram, voilà, la porte vous est ouverte. Et là, l'Assemblée Générale suivra aux portes ouvertes.
D'accord, et on attend quoi de cette Assemblée Générale justement? Enfin, il y a des trucs de prévus ou...
C'est une Assemblée assez classique, avec la présentation de notre rapport d'activité, notre rapport financier, et avec un petit voyage au pays des défis, puisqu'on aime bien présenter les choses de manière ludique.
Bah écoutez, merci beaucoup.
De rien, merci à vous.
Merci beaucoup Marie pour ton interview de la directrice de Graines de Citoyens. Donc on va entendre Mathéo dans quelques instants, mais avant tout ça, une petite pause musicale. On l'a reçu en interview la semaine passée, il s'agit de Maersem avec son titre « Je te t'aime ».
Je te t'aime, mal formulé, mal rangé, mal habillé dans ma bouche qui tremble. Je te t'aime trop tôt, trop fort, tout près de ta joue qui recule un peu. Je te t'aime comme on claque une porte avec l'espoir idiot qu'elle se rouvre toute seule. Je te t'aime, je te t'aime. Je te t'aime quand même, quand tu ris d'autre chose, quand tu pars sans un mot. Je te t'aime quand même, je te t'aime problème, et je garde ton prénom. Ça va et toi, échanger. Je te t'aime mal.
cadré dans notre selfie raté, yeux rouges, cœur flou, toi net au milieu. Je te t'aime comme un mot de passe que j'oublie dès que j'arrive devant toi. Je te t'aime. Je te t'aime quand même. Quand tu changes de sujet dès que ça parle trop de nous. Je te t'aime. Je te t'aime. Ne t'oblige à rien, je te t'aime. Comme on pose une prose dans un vase et tu peux le prendre ou te blesser. Mais regarde, il tremble un peu. Je te t'aime. Je te t'aime. Je te t'aime quand même. Même si ça reste coincé entre ma langue et mes dents. Je te t'aime. Je te t'aime, problème. Et ça fait mal et ça fait vrai. Je te t'aime quand même, quand même, quand même. Quand même, quand même, quand même.
Ma RCM avec Je te t'aime sur le 101.5 FM de Radio G. Ma RCM, si vous ne connaissez pas et si vous aimez ces musiques, je vous encourage à aller découvrir son premier EP Dune, sorti tout récemment, là en 2026. Dune, le nom de son chien que vous pouvez apercevoir sur certaines de ses réalisations vidéo. Peut-être sera-t-il dans le clip, qu'en sais-je. En tout cas, découvrez cet artiste sur ses réseaux sociaux Instagram et TikTok. Mathéo pour la dernière chronique de Topette, la dernière chronique absolue de Topette. On finit donc en beauté avec la chronique ciné de Mathéo.
Comme beaucoup, j'aime le cinéma, j'aime sa pluralité, sa capacité à traverser le temps, à nous emmener dans des lieux insoupçonnés pour entrer en contact avec des cultures dont l'existence même nous est parfois inconnue. Le septième art possède cette capacité véritable de nous enlever le voile du quotidien. Il est si dense que parler simplement de cinéma n'a presque aucun sens, mélange de genre, de provenance. Il nous permet de rêver devant Jacques Tati, de faire face à la réalité populaire avec Ken Loach et au ridicule bourgeois avec Louise Buñuel. À l'intérieur de ce grand bazar que représente cet art en constante réinvention, il y a un pays dont les réalisateurs m'ont particulièrement marqué. De la Biélorussie à l'Azerbaïdjan, de Tarkovsky à Kalatozov, en passant par Larissa Shepitko, le cinéma soviétique a influencé le monde et mon propre parcours, base inspirationnelle pour beaucoup, exemple avec Isabelle Huppert qui a avoué que Quand passent les cigognes lui a donné l'envie de devenir actrice grâce à l'avant-gardisme de sa protagoniste et à la sensibilité du film, à la position que cette dernière occupe pendant la guerre. C'est aussi un de mes films préférés, mais lorsque l'on parle d'influence, un cinéaste et surtout un film s'impose toujours, Sergei Eisenstein et son film Le cuirassé Potemkin. Il est ressorti en salle la semaine dernière à l'occasion de son centenaire, c'est donc l'occasion d'évoquer cette œuvre qui fut pour beaucoup à la fois une porte d'entrée cinématographique et la première couche d'une réflexion politique.
Ma mémoire chante en sourdine Potemkin. Ils étaient des marins, durs à la discipline. Ils étaient des marins, ils étaient des guerriers. Et le cœur d'un marin, au grand vent se burine. Ils étaient des marins, sur un grand cuirassé.
Pour comprendre ce que représente le cuirassé Potemkin, il faut avant tout apprendre à connaître Sergei Eisenstein, cinéaste dont la modernité ne cesse d'impressionner encore aujourd'hui. Il est avant tout un homme d'un autre temps. Né en 1896 à Riga, le petit Sergei n'a jamais vraiment eu à faire face à la précarité. Bourgeois, fils de l'union d'un célèbre architecte et d'une marchande, il n'a que 8 ans lorsqu'éclate en 1905 la révolution russe. Sa mère l'emmène alors vivre dans la ville dont elle est originaire, dans le terrain de jeu de Nicolas Gogol, à Saint-Pétersbourg. Il adopte rapidement la capitale des tsars qui restera son lieu de vie malgré le départ de sa mère à Paris, une fois le divorce avec son père acté. Sept ans plus tard, alors qu'il commence tout juste des études d'ingénieur civil, il s'engage dans l'armée rouge lors de la guerre civile russe. La fracture avec son père, fervent opposant aux bolcheviques, est consommée. Sa mort en 1920 ne freine pas les ardeurs du désormais décorateur pour le 4e art. Avec comme mentor le directeur du théâtre de la Révolution à Moscou, un certain Meyerhold, il réalise en 1923 son premier film. Un court-métrage burlesque qu'il nomme le journal de Gloumov, pionnier d'une méthode nouvelle, le montage des attractions. Une science qu'il expliquera dans un texte sorti en 1925, un an après son deuxième film, La Grève. Je cite « L'attraction est chaque moment agressif, tout élément qui peut être mathématiquement calculé et vérifié de façon à produire telle ou telle émotion choc. Le cinéma utilise à l'époque un montage fluide passant d'une action à l'autre sans heurter véritablement le regard. Avec le montage des attractions, Eisenstein superpose violemment des images avec la logique du plan A plus le plan B est égal au plan C. Dans La Grève, par exemple, il monte en parallèle la répression des ouvriers et le massacre des bovins, des hommes comme des bêtes. » C'est sa vision assez simpliste du spectateur qui le pousse à cette conception en avance sur son temps, mais qu'il regrettera plus tard. Erreur qui le poussera à mêler des lois mathématiques du nombre d'or et la puissance libidinale du voyeur sans vraiment avoir le sentiment de trouver la théorie parfaite sur le spectateur. Mais existe-t-elle vraiment ? Eisenstein est donc un artiste scientifique qui dira d'ailleurs vouloir réaliser avec le cuirassé Potemkin en 1925 une synthèse de l'art et de la science. Un film de propagande soviétique pour les 20 ans de la révolution russe, commandé par le gouvernement, qui finira par lui jouer quelques tours. Dans son contact avec l'Occident lors d'un voyage purement artistique et mal vu par Staline, qui aime garder à l'œil, voire violenter les intellectuels de son pays. Le prêt de Bégin, sorti en 1937, reçoit un accueil glacial. Eisenstein, dans le viseur du Tsar rouge, rebondit alors en sortant le triomphe Alexandre Nevsky, grâce à qui il deviendra d'ailleurs le directeur de Mosfilm, ce qui n'est pas rien. Réhabilité, il se verra missionné par Staline afin de réaliser un film en trois parties sur Ivan le Terrible. La première sort en 1946, mais un léger imprévu adressé directement aux commanditaires se cache dans l'œuvre. Staline n'est pas bête et comprend vite que le personnage tyrannique, fou, paranoïaque et Ivan IV est calqué sur sa personne. Le film est immédiatement censuré, la partie 3 initialement en attente est annulée et les représailles sur Eisenstein s'annoncent terribles. Oui, sauf que le 11 février 1948, le cinéaste meurt d'une crise cardiaque. Venez d'entendre un extrait de La bataille de glace, scène iconique du film Alexandre Nevsky. Lors de sa mort, Eisenstein laisse derrière lui des mastodontes du cinéma. Celui qui marquera le plus ses contemporains, c'est le fameux cuirassé Potemkin. Retour en 1905, la guerre russo-japonaise fait rage et l'empire tsariste est en ballotage défavorable. En réponse à cette débâcle, le peuple se soulève, la révolution russe éclate et elle sera réprimée dans le sang, sans aucune autre forme de procès. L'histoire du cuirassé Potemkin se trouve quelque part au début de la révolution de 1905. Sur le navire de guerre Potemkin, la colère gronde. En plein milieu de la mer Noire, les officiers sont obligés de manger de la viande avariée, travaillent dans des conditions inhumaines et font face à la menace d'une sentence mortelle pour tout refus. L'idée d'une mutinerie grandit jusqu'à être de tous les instants, alors les marins se rebellent. Arrivant victorieux au port d'Odessa, situé dans l'actuelle Ukraine, ils sont accueillis en héros par la population, mélange de classes sociales ayant adhéré à la cause de la révolution. Alors que la joie règne, l'armée tsariste fait irruption dans la ville avec la directive de massacrer tout le monde. Vous venez d'entendre la scène de la révolte des marins qui devaient se faire exécuter pour avoir refusé la soupe, confronte les tireurs. Allez-vous tirer? Évidemment non, et c'est le début de la mutinerie. Eisenstein glisse dans ce film un aspect très mystique de la révolution. Il croit en elle, alors il l'infuse dans la tête des femmes et des hommes que l'on voit à l'écran. C'est une force qui fait de ce film une œuvre bien plus profonde qu'un simple film de propagande. Notez que je n'ai pas utilisé d'ailleurs le mot personnage, et c'est normal puisqu'il n'y en a pas dans le film. Il ne développe aucune personne excepté un martyr grégorien Grigory Vakulinchouf, lanceur de l'idée de la révolte au début du film, qui sera aussi le premier à mourir et dont la dépouille emmenée à Odessa mettra les habitants de la ville tuer devant la réalité de la violence tsariste. Film muet, le cuirassé Potemkin jouit d'une modernité assez folle hein, dans son rythme, le montage d'Eisenstein, les choix des musiques font que le film pourrait même se passer de mots. Il doit cette qualité à des scènes symboliques très fortes, hein, celle des vers sur la viande, celle de la joie populaire à Odessa, celle des moments de violence sur le bateau, celle des marches d'Odessa bien sûr, avec le landau ou cette mère qui remonte les marches avec le corps de son enfant vers des soldats qui la tueront sans véritable état d'âme. Il est aussi doté d'une narration fragmentée, porteuse à chaque fois de situations et d'intrigues assez différentes qui nous offre la possibilité de réfléchir puis de constater avec densité. Au-delà de la science technique et politique, c'est aussi un film assez érotique. Hein. Eisenstein était homosexuel et il a incorporé dans son film plusieurs scènes qui nous le rappellent. Celle des marins, de ses corps musclés, sculptés et enduits par un travail difficile que l'on voit au début du film, mais aussi les différents plans et c'est bête à dire sur le canon. Le cuirassé Potemkin n'a pas pris une ride, c'est un bijou de cinéma soviétique, muet mais particulièrement parlant, centenaire et pourtant si moderne. L'influence du cuirassé Potemkin n'a pas vraiment de frontières ni de limites fondamentalement. La partie 4, les marches d'Odessa, la plus connue, sans véritable doute, la plus impressionnante, assurément, a inspiré bon nombre de réalisateurs. La scène du landau qui a gagné à la loterie des scènes les plus célèbres du 7e art, rien que cela, a bousculé en son temps les limites du médium. Le moment où une mère d'Odessa est abattue par l'armée tsariste, chute de tout son corps jusqu'à faire bousculer le landau dans lequel se trouve son bébé. S'ensuit un travelling de génie dans lequel on suit ce petit être dévaler les marches, rebondissant au milieu du chaos du massacre en cours. Idée reprise par Brian De Palma dans Les Incorruptibles, par Terry Gilliam dans Brasil, dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood. On retrouve même la rythmique des soldats dans l'épisode 3 de Star Wars. Au-delà des scènes, ce qui marque, hein, c'est cette science hyper moderne du montage. Si le film a été interdit en France pendant 27 ans et dans des durées similaires aux quatre coins du globe, son découpage, son rythme se seront déjà dilués dans le cinéma. Rallonger les scènes, passer par différents angles de vue, tout cela vient en partie du cuirassé Potemkin. Un gros héritage qui dépasse les frontières du cinéma, film de propagande qui n'oublie pas son rôle. Ses admirateurs de la première heure ne manquent pas, saluant son aspect éminemment politique, mais qui aura malgré lui provoqué la fascination chez Goebbels, par exemple, émerveillé devant ce film qui aurait, selon lui, le pouvoir de transformer n'importe quel être en communiste, si bien qu'il prit en otage le cinéma allemand de l'époque avec un seul mot d'ordre, faites un Potemkin. Alors évidemment, le Potemkin allemand nazi ne verra jamais le jour, car l'œuvre d'Eisenstein, c'est pas juste un film de propagande, hein, il dégouline de croyances, de science et d'un passé populaire dont l'Allemagne nazie est dépourvue. Le film a traversé les époques, est devenu le classique que nous connaissons, et sa dimension politique, puisque propagandiste, s'est fixée sur le vieillissement apparent de l'œuvre, autant dire qu'elle n'a pas pris une ride. Le mot Potemkin vous dit d'ailleurs peut-être quelque chose, hein, indépendamment du film en lui-même. Il s'agit également d'une société cinématographique fondée à Paris en 2006 et qui s'est depuis mise à éditer des films et des cinéastes comme Werner Herzog, Andrei Tarkovsky, Elem Klimov, Fritz Lang, Milos Forman, Charlie Chaplin, Akira Kurosawa ou encore Abbas Kiarostami, tant de grands noms. Le carouge incrusté du mot Potemkin n'est pas un lingot étranger à l'œuvre d'Eisenstein. Alors un film populaire qui donne son nom à une entreprise à visée lucrative, c'est aussi un petit exemple des principes de dépossession et de réappropriation de la contestation par le capitalisme. Et ça marche sur moi puisque j'en ai à l'appel des coffrets édités par Potemkin. En attendant, bien sûr, la sortie de celui des 100 ans du film Le cuirassé Potemkin d'Eisenstein, qui est toujours en salle, à découvrir au 400 coups, un des 13 cinémas diffusés le film en France.
C'est fini. Voilà, c'est terminé. C'est terminé pour ce soir, c'est terminé pour toujours. Topette tire sa révérence après 5 saisons de bons et loyaux services, je sais pas. En tout cas, c'est l'expression qui me vient en tête spontanément. Je n'ai rien écrit pour vous partager ce dernier moment ensemble jusqu'à 19h. Je le répète, j'ai été extrêmement heureux d'animer ce programme. avec vous, pour vous, pendant toutes ces années. 5 ans, ce n'est pas rien, c'est comme une belle performance. C'est vrai que les quotidiennes sur des radios commerciales ou professionnelles ne sont pas forcément aussi longues. Il y a du turnover assez important, donc c'est pour moi en tout cas un beau moment radiophonique que j'ai vécu, même plus largement avec Radio G, hein, depuis septembre 2019 avec la chronique, on pouvait l'appeler chronique. C'était une petite émission de 20 minutes qui s'appelait Clic-Clac-Topette. D'où le lien, c'est comme ça que la filiation est née pour le nom de cette émission. Une belle aventure radiophonique qui s'achève donc cette année au service de Radio G. Radio G que je remercie, c'est une radio associative, c'est pas la radio forcément la plus, on va dire, la plus constituée, la plus... voilà, ça, c'est un grand buffet, tout le monde vient se servir, mais c'est pour le plaisir de chacun. Et c'est ce qui fait justement la beauté de cette radio, c'est ce pourquoi elle existe, à mon sens en tout cas. Elle offre des opportunités qu'elle n'offrirait pas, que d'autres radios n'offriraient pas aux personnes qui veulent pratiquer la radio, aborder des sujets, alors que ce soit d'un point de vue bénévole, associatif ou professionnel, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire pendant ces 5 années, et donc cette année au total avec 2 années de bénévolat avec Clic-Clac-Topette. Donc bah merci Radio G pour ce petit bout de chemin fait ensemble. J'ai beaucoup appris à tes côtés, ça a été un plaisir incroyable. Voilà, j'ai pas d'autres expressions à vous communiquer. Une personne quand même que je tiens à remercier, Fadi, mon collègue, effectivement, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, je ne l'ai pas nommé, il y a aussi Julien, un autre, on était deux collègues, et Fadi avec qui j'ai partagé, on a partagé le même bureau pendant quasiment ces 5 années, donc voilà, des moments exceptionnels, des moments incroyables, des souvenirs où c'est vrai que j'ai eu la chance d'être ton collègue à tes côtés pendant toutes ces années. Waouh! J'ai jamais voulu parler d'amitié parce que voilà, on a toujours eu cette petite distance, toi et moi, on le sait. Mais s'il y a quand même un mot qui me viendrait spontanément en tête pour qualifier ce que je ressens pour toi, c'est de l'amitié. Donc merci Fadi, parce que t'as été un élément important et constructif qui m'a permis de vivre aussi tous ces moments-là avec Radio G. La première année, t'es parti, je pars. Est-ce que c'est le hasard du destin, de l'univers, du karma? On ne sait pas. Voilà, bref, on va se quitter sur ces paroles un peu farfelues. Je pense que la chaleur, la canicule me tape sur le cerveau, un peu comme tout le monde. Prenez soin de vous une dernière fois. Enfin, une dernière fois, non, on continue à prendre soin de vous, mais c'est la phrase que je dis depuis le début. On a commencé en période Covid, on se quitte en période canicule, décidément. Prenez soin de vous. Je vous dis pas demain, je vous dis pas en septembre. Je vous dis peut-être à bientôt. Topette.
La porte cassée de ce studio un peu barré, les micros craquent, les chaises grincent, des voix timides qui ressortent intrépides. Dernière journée à Radio G, des rires, des blagues, des souvenirs, chacun sa trace, son éclat. On a construit même en désordre. Café brûlant, des idées lancées, des micros ouverts, des chansons partagées, des discussions qui filent. On est comme des piles dans ce bureau, des âmes sincères, des héros. On se souvient de toutes les bouilles, volontaires de Radio G ou stagiaires de Gribouille. Dernière journée à Radio G, des rires, des blagues, des souvenirs, chacun sa trace. Là, on a construit même en désordre une famille que rien ne décolore. Les câbles s'en mêlent, un dernier mix. Les idées fusent, c'est un feu d'artifice. On est fatigué, mais on rit encore, car ici, l'ennui reste dehors. Dernière journée à Radio G, des rires, des blagues.
t'es sa sœur. J'apprends, mes erreurs je laisse faire. Je construis, peu à peu je l'espère. On m'a dit la nuit, pas plus conseil, mais je me réveille. Gardez vos avis, je vous le conseille, merci quand même. Souvent je me dis, ça sera jamais.
Faut s'attendre au pire. Je n'ai plus de voix, donc je ferai des mimes.
On m'a dit la nuit, porte conseil, mais je me réveille. Gardez vos avis, je vous le conseille, merci quand même. Souvent je me dis, je ça sera jamais.
Qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Et même si on le pensait vraiment, j'attendrai ton retour pour longtemps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais merci à l'autre pour ce que j'ai pu croire. Et partout l'emmènera le vent, je serai un peu là en même temps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Et moi je serai là si la vie t'emporte, si ton cœur a froid. Si jamais tu cherches un endroit, je le garderai là pour toi.
partout où tu veux.
Je serai partout où tu veux.
Si tu veux bien de moi.
Si tu veux bien de moi.
Et si t'as trouvé mieux.
Et si t'as trouvé mieux.
Je veux le voir avec toi.
Je veux le voir.
Je serai partout où tu veux.
Si tu veux bien de moi.
Et si t'as trouvé mieux.
Je veux le voir avec toi.
Mais si m'explique comment, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Bye.